philosophie politique par le père Philippe.
À Saint-Joseph, le 30 janvier 85.
Nous allons continuer cette petite recherche sur la politique, dans la politique d'Aristote, sur ce que représente la communauté politique. Alors nous avions vu la dernière fois ce point de vue très important dans la perspective d'Aristote, difficile à bien comprendre, cette relation de celui qui commande et de celui qui exécute, la relation du maître et de l'esclave. Qu'est-ce que ça représente dans cette perspective d'Aristote par rapport à la famille ? Comment c'est la relation la plus fondamentale, la famille et la communauté fondamentale, et la relation fondamentale de la famille, c'est la relation de celui qui commande et de celui qui obéit. Donc on est devant un méta-fondement. Vous voyez bien, le fondement du fondement. Pour Aristote, il n'y a pas de communauté sans coopération. Ça me semble très net. Hein. Vous voyez bien le petit raisonnement qu'il faut faire. Hein. Et c'est important pour tout ce que nous essaierons de comprendre après. La famille, communauté naturelle, vous êtes. Communauté naturelle, communauté fondamentale. Dans la famille, il y a deux relations. La relation de l'époux et de l'épouse, Aristote dans l'homme et la femme, qui est une relation d'amour. L'amour d'amitié. Et puis, il y a une relation fondamentale. Celle-ci est donc finale, celle-ci est de l'ordre du fond, du fondement du maître et l'esclave. Celui qui commande, celui qui obéit. Donc cette relation de celui qui commande et celui qui obéit, c'est bien le fondement du fondement. On peut donc dire que toute communauté repose là-dessus. Le jour où il n'y a plus de relation de celui qui commande et celui qui obéit, il n'y a plus de communauté. Vous voyez bien, puisque même la famille est détraquée. Et la famille est une communauté fondamentale. L'aspect de l'amour ne suffit pas, il finalise. Mais il ne structure pas une communauté. C'est ça qui est très important. La communauté est structurée par la relation de celui qui commande, celui qui obéit. C'est important parce que ça nous fait comprendre justement qu'est-ce que ça représente, cette communauté. Qu'est-ce que ça représente, cette communauté. C'est le point de vue de l'efficacité. Et le même intérêt. C'est là où on voit très bien la différence. Dans l'amour d'amitié, Aristote ne parle pas directement de l'intérêt, tandis qu'il parle immédiatement d'une question d'intérêt, celui qui commande et celui qui obéit. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire une œuvre commune. Il faut réaliser une œuvre commune. Donc c'est le même intérêt. Le jour où celui qui commande et celui qui obéit n'ont plus le même intérêt, il n'y a plus de coopération. Il faut maintenir le même intérêt. C'est ça, toute l'astuce de la coopération. S'il n'y a plus le même intérêt, celui qui commande et celui qui obéit, il ne peut plus y avoir de coopération. Donc il ne peut plus y avoir de communauté. C'est là-dessus qu'on repose tout. J'explicite, Aristote ne le dit pas comme ça, mais si on comprend bien, on voit que ça ne peut pas être autrement que cette relation de celui qui commande et celui qui obéit, donc maître et esclave. Alors quand je dis que c'est une relation d'efficacité, attention, tout de suite, hein, pourriez m'objecter, c'est pas vrai. Et c'est juste, c'est pas entièrement vrai. C'est pas une relation premièrement d'efficacité. La relation de celui qui commande et celui qui obéit est premièrement une relation d'un mode d'action. Donc, elle est morale. Mais elle a une capacité d'efficience. L'esclave est partie d'un tout. Il est l'avoir du maître. Et donc, il y a une relation de propriété qui est très importante à souligner. Alors, est-ce que, de fait, c'est nécessaire pour toute coopération? Ça, ce serait le problème qu'il faudrait poser. On le posera. Si je l'oublie, vous me rappellerez. Parce que ça, c'est très important. Parce qu'il est sûr que pour Aristote, la relation de celui qui commande et de celui qui obéit n'est pas premièrement une relation d'efficacité. Cette relation présuppose une relation au niveau de l'avoir, au niveau de l'action. Donc, l'aspect moral apparaît en premier lieu. Je crois que pour Aristote, il ne peut pas y avoir d'efficacité pure. Il n'y a pas de communauté humaine dans l'efficacité pure. Ça n'existe pas. Donc l'économie, comme on en parle aujourd'hui, l'économie à l'état pur n'existe pas pour Aristote. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. C'est une tentation qui va arriver. Et qu'Aristote prévoit. Mais ce n'est pas naturel. Puisque ce qui fonde la communauté familiale, qui elle-même fonde la communauté politique, c'est cette relation au niveau de l'action, donc au niveau moral. Vous allez voir. Et ça, c'est très important. Parce que ça montre comment toute la politique est enveloppée de l'éthique. Pour bien comprendre ça, regardez le chapitre 8, chapitre 9, premier livre de la politique. Mais il existe un autre genre de l'art d'acquérir. Un autre genre. Il y a un premier genre d'acquérir qui est au niveau domestique. L'économie domestique, c'est le chapitre 8. Je ne le lis pas avec vous, mais c'est intéressant. Alors, il souligne l'autre genre d'acquérir, qui est spécialement et appelé à bon droit crématistique. Ça, il faut savoir. Crématistique. Vous savez très bien comment ça s'écrit. Crématistique. C'est-à-dire, c'est à ce mode d'acquisition qu'est due l'opinion qu'il n'y a aucune limite à la richesse et à la propriété. C'est ça qui est intéressant. C'est au fond, à partir de cet art crématistique, que va naître une possibilité d'économie à l'état pur et donc d'une richesse infinie. Ça, c'est coupé de la phusis, de l'aspect naturel. C'est assez joli, tu vois, ça. Beaucoup, en raison de son affinité avec l'art d'acquérir décrit précédemment, c'est-à-dire le point de vue de l'art d'acquérir au niveau de la famille, croit qu'il ne fait qu'un avec lui et les identifie. En réalité, il n'est pas le même que celui dont nous avons parlé, mais il n'en est pas non plus très éloigné. seulement l'un d'eux est naturel, l'autre n'est pas naturel, mais a plutôt pour origine une certaine expérience et un certain savoir-faire. Donc il y a une grande différence entre les deux. L'art crématistique, l'art d'acquérir de la richesse, au niveau proprement de la famille, est naturel. Et au niveau politique, il peut ne plus être naturel. Alors c'est ça qu'on va essayer de voir. Prenons comme point de départ, pour établir la présente diversité, les considérations suivantes. C'est important. On prend un nouveau point de départ. Et c'est important puisque c'est à partir de là que je crois que naît l'économie coupée du point de vue moral. Chacune des choses dont nous sommes propriétaires est susceptible de deux usages différents. L'un comme l'autre appartiennent à la chose en tant que telle, mais ne lui appartiennent pas en tant que telle de la même manière. L'un est l'usage propre de la chose, l'autre est étranger à son usage propre. Vous allez tout de suite comprendre. Par exemple, une chaussure. Sur la chaussure. Très bien. Pas la chaussure peinte, mais la chaussure comme telle. Ce qu'on voit très bien. Heidegger reprendra la chaussure peinte, mais ça ne sera pas tout à fait celle-là. Par exemple, une chaussure a deux usages. L'un consiste à la porter. Les sandales, c'est fait pour être porté. Normalement, vous ennoblissez vos sandales en les portant. Puisque vous leur donnez une finalité. Donc vous les ennoblissez. Vous leur donnez ce pourquoi elles sont faites pour être portées. L'autre est à en faire un objet d'échange. Donc l'autre à en faire un objet d'échange. La chaussure a une certaine valeur, a fallu tant d'heures, il a fallu telle matière pour pouvoir la faire, ça vaut tant. Alors, je fais beaucoup de chaussures, j'en ai trop pour ma famille, alors il faut troquer la chaussure pour le blé. Faut bien. Alors, il faudra savoir qu'est-ce que ça correspond, la chaussure, par rapport au blé. Quelle est la valeur de la chaussure par rapport au blé? Qu'est-ce qu'on va inventer à partir de là? La monnaie. La monnaie, c'est pour permettre les échanges d'une façon plus facile. Donc, c'est pour le second usage qui n'est plus naturel. Vous voyez bien? Comment ça glisse? Quand c'est naturel, c'est très très bien, c'est naturel. Vous faites des chaussures pour les porter. Mais vous vous spécialisez en chaussures. Vous savez, Platon avait dit ça. On se spécialise en chaussures. On va beaucoup plus vite si on se spécialise en chaussures que si on ne fait que les chaussures pour les 4 enfants qu'on a. Et puis pour sa femme. Et puis pour son esclave. Ou c'est 2 esclaves, ou c'est 3 esclaves, ça fait 10 chaussures. Mais si on est spécialisé, on en fait beaucoup plus. Alors, il faut troquer. C'est une valeur marchande. Alors, ce n'est plus l'usage naturel. C'est un usage préternaturel. Vous voyez bien, c'est un usage qui n'est plus naturel, c'est plus la phusis. C'est autre chose, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à cet usage naturel. Pour l'échange, l'un et l'autre sont bien des modes d'utilisation de la chaussure, car même celui qui échange une chaussure avec un acheteur qui en a besoin, contre de la monnaie ou de la nourriture, utilise la chaussure en tant que chaussure. Mais il ne s'agit pas là, toutefois, de l'usage propre, car ce n'est pas en vue d'un échange que la chaussure a été faite. Pas premièrement. Ça, c'est très très important. La dualité d'usage, vous voyez? C'est la question de l'usage. C'est là où on voit que ça va jouer. Il en est de même encore pour les autres objets dont on est propriétaire, car la faculté de les échanger s'étend à eux tous, et elle a son principe et son origine dans l'ordre naturel, en ce que les hommes ont certaines choses en trop grande quantité et d'autres en quantité insuffisante. Pris en ce sens-là, il est clair aussi que le petit négoce n'est pas par nature une partie de la crématistique, puisque dans l'usage, dans la mesure exigée par la satisfaction de leurs besoins, les hommes étaient dans la nécessité de pratiquer l'échange. Vous voyez, c'est là la différence entre l'échange fait au niveau domestique et l'échange qui va prendre une plus grande ampleur. Certes, dans la première forme de communauté, c'est-à-dire la famille, il est manifeste que la faculté d'échange ne joue aucun rôle. Son utilité se montre seulement quand la communauté s'élargit. En effet, les membres de l'association primitive possédaient toutes choses en commun. Puis, une fois divisés en familles distinctes, ils maintinrent la possession commune pour de nombreux biens, et en repartir d'autres qui durent, selon les besoins, faire l'objet d'échanges réciproques, comme cela se pratique encore chez un grand nombre de nations barbares qui se servent du troc pour échanger l'un contre l'autre les choses utiles à la vie, mais rien de plus. On donne par exemple et on reçoit du vin contre du blé, et ainsi de suite pour toutes les autres choses, les autres denrées analogues. Un tel mode d'échange n'est ni contre nature, ni une forme quelconque de crématistique, proprement dite, puisqu'il est, avons-nous dit, destiné à suffire à la satisfaction de nos besoins naturels. Vous voyez la finalité, hein, c'est ça qui est intéressant à voir. Cependant, c'est de lui que dérive logiquement la forme élargie de l'échange. Le point de vue catalogon, c'est logiquement, c'est-à-dire selon la raison, c'est plutôt ça. Parce que logiquement, ce n'est pas tout à fait le point de vue. Donc il y a une seconde forme. En effet, quand se développa l'aide que se prétend les divers pays pour l'importation des produits déficiaires et l'exportation des produits en excédent, l'usage de la monnaie s'introduisit comme une nécessité. Car les différentes choses nécessaires à nos besoins naturels n'étant pas toujours d'un transport facile, on se mit par suite mutuellement d'accord en vue des échanges pour donner et recevoir une matière de nature telle que, tout en gardant une utilité intrinsèque, elle offrit l'avantage de te transmettre aisément de la main à la main pour assurer les besoins vitaux. On prit par exemple le fer, l'argent ou tout autre métal de ce genre. Et ça t'insiste que la monnaie doit avoir son poids naturel, donc sa valeur naturelle. Quand ça devient un bout de chiffon, hein, très dangereux, parce qu'il n'y a plus du tout de valeur naturelle, n'est-ce pas, un bout de papier. Donc au début, on détermina la valeur simplement par la grandeur et le poids, mais finalement, on y apposa une empreinte pour échapper à la peine de la mesure, de la mesurer, l'empreinte étant mise comme signe de la quantité du métal. Une fois la monnaie inventée, donc on montre pourquoi la monnaie s'est inventée, les échanges entre les pays, pas à l'intérieur de la maison, mais les échanges entre les pays, entre les diversités. Une fois la monnaie inventée, à cause de la nécessité de l'échange, une autre forme de la crématistique vit le jour. le petit négoce qui tout d'abord se fit probablement d'une manière toute simple, mais prit ensuite sous l'action de l'expérience une allure plus savante, en cherchant les sources et les méthodes d'échange destinées à procurer le maximum de profit. De là vint l'idée que la crématistique a principalement rapport à la monnaie et que son rôle est d'être capable d'étudier les sources où l'on trouvera de l'argent en abondance. Car cet art-là semble être créateur de richesses et de biens. Oui, on regarde la monnaie pour elle-même. À la place de la regarder uniquement comme un intermédiaire, on la regarde pour elle-même. Et alors on va faire la même chose. Vous voyez, comme la chaussure a deux usages, la monnaie aura deux usages. Et c'est à partir de là qu'on a un échange au carré. C'est plus simplement pour l'échange, alors valeur-valeur, avec un fondement naturel. Il n'y aura plus de fondement naturel, il n'y aura plus que le désir du gain. Et en effet, on pose souvent en fait la richesse comme n'étant rien d'autre qu'une abondance de numéraire, parce que c'est à la monnaie qu'on rapporte la crématistique et sa forme mercantile. À d'autres moments, en revanche, on est d'avis que la monnaie est une pure niaiserie, une chose entièrement conventionnelle et sans rien de naturel. Parce que ceux qui s'en servent, venant à lui substituer un autre étalon, elle perd toute valeur. Et aussi parce qu'elle n'est d'aucune utilité pour les diverses nécessités de la vie. Et que tout en disposant de moyens monétaires considérables, on pourra souvent manquer de la nourriture la plus indispensable pour avoir des monceaux de monnaie et mourir de faim. C'est cependant une étrange richesse que celle dont l'abondante possession n'empêche pas de mourir de faim, comme cela arriva au fameux Midias de la fable, dont la prière Cupide, au-delà de toute mesure, avait pour effet de changer en or tout ce qu'on lui présentait. Hein, merveilleux. Le pain changé en or. L'eau changée en or. Alors vous mourrez devant votre or amoncelé. Oui, le mythe. Le mythe qu'Aristote utilise ici pour montrer comment l'avidité de la richesse peut arriver à supprimer la vraie finalité. La vraie finalité des échanges, c'est pour les besoins naturels. Et quand, de fait, les échanges ne sont plus en vue des besoins naturels, mais sont tout simplement pour gagner de l'argent, à ce moment-là, il n'y a plus de limite à la cupidité. Et ça devient infini. Et vous avez donc le mythe de Midias qui apparaît. Tout est changé en or. Et vous mourrez en face d'un tas d'or. C'est très très joli ça. C'est très très joli de faire apparaître comment la limite naturelle du besoin, des choses dont ils sont nécessaires pour qu'on puisse vivre et bien vivre, à cause de la monnaie, peuvent très bien dévier et perdre ses limites. Aussi cherche-t-on à établir une notion toute différente de la richesse et de l'art de l'acquérir. Et cette recherche se justifie, en effet. L'art naturel d'acquérir des richesses et la richesse naturelle sont tout autre chose que ce que nous venons de voir. La crématistique naturelle relève de l'économie domestique, tandis que le commerce et l'art de créer des richesses, non pas de toute façon, mais seulement par le moyen d'échanges de biens. Et c'est cette dernière forme qui, semble-t-il, un rapport à la monnaie, car la monnaie est dans ce cas principe et fin de l'échange. C'est ça qu'il faut souligner. La monnaie qui au point de départ était un métaxu devient principe et fin de tous les échanges. Oui. C'est là le renversement. C'est très astucieux, je crois, ça. C'est très intelligent d'avoir vu ça. D'avoir vu comment il y a quelque chose de base naturelle et comment on s'éloigne des besoins immédiats pour ne plus chercher que la richesse à l'infini. Et Aristote considère que cette déviation de la finalité, c'est la destruction de la communauté. C'est le plus grand mal pour la communauté. Parce que c'est par là que la finalité politique disparaît le plus vite. Alors, et c'est cette dernière forme qui semble-t-il un rapport à la monnaie, car la monnaie est dans ce cas principe et fin de l'échange. Dès lors, cette sorte de richesse qui provient de la crématistique, ainsi définie, est véritablement sans limite. De même que l'art médical poursuit sans limitation la santé et que chacun des autres arts poursuit aussi sa fin sans limitation, car ils veulent la réaliser au plus haut point possible. Alors que les moyens d'atteindre la fin ne sont pas, eux, illimités. C'est toute la différence entre la fin et le moyen. Le moyen relatif à la fin, donc il est limité. Mais quand vous prenez quelque chose pour une fin, il n'y a plus de limite. Alors il y a un moment donné où la monnaie n'est plus considérée comme un moyen, elle est regardée comme un principe et une fin. Et à partir de ce moment-là, le crématistique n'a plus de limite. Alors que les moyens d'atteindre la fin ne sont pas, eux, illimités, puisque la fin est dans tous les arts une limite. Alors, ça c'est très joli, on joue sur le point de vue de Télos et Péras. En grec, la fin est limite. Vous voyez, la fin peut limiter, elle limite les moyens. Elle ne limite pas celui qui la poursuit, mais elle limite les moyens. Ainsi également, pour cette forme de crématistique, il n'y a pas de limite à sa fin. Et sa fin est la richesse, l'acquisition des biens au sens mercantile. Au contraire, l'art d'acquérir des richesses pour l'administration de sa maison, tout différent de la crématistique proprement dite, a une limite, car l'acquisition illimitée de monnaie n'est pas l'affaire de l'économie domestique. De là vient que, à un certain point de vue, il apparaît que toute richesse a nécessairement une limite, et pourtant, d'un autre côté, l'expérience de chaque jour nous montre que c'est le contraire qui a lieu. Car tous les trafiquants accroissent indéfiniment leurs réserves monétaires. Ça, c'est tous les trafiquants. La tentation de toujours augmenter à l'infini les réserves monétaires. La cause de ce contraste réside dans l'étroite connexion des deux espèces de crématistique. Elles se recouvrent l'une l'autre, en ce que la chose dont chacune fait usage est la même. C'est bien de la même chose possédée qu'il y a usage. Mais l'usage n'a pas lieu de la même manière dans les deux cas. La forme domestique de la crématistique a en vue une fin autre que l'accumulation de l'argent, tandis que la seconde forme a pour fin l'accumulation d'argent. Il insiste pour que nous comprenions bien. Il y a deux manières d'acquérir la richesse. Une naturelle, l'autre qui n'est pas naturelle. Qui n'est plus naturelle. Oui. Et quel est le métaxu? C'est la monnaie. Comment on est arrivé à ça? C'est la monnaie. Il fallait expliquer comment on arrive à ça. Comment la crématistique qui, au point de départ au niveau domestique, est naturelle et limitée, par le point de vue des besoins de la famille, comment, passant au niveau de l'État, au niveau politique, donc au niveau d'une communauté qui est parfaite peut arriver à cette attitude anti-humaine, c'est anti-humain, parce que c'est plus une fin naturelle. Alors on cherche à partir de ce moment l'argent pour l'argent, l'accumulation des richesses. Par suite, certains pensent que cette accumulation est aussi le rôle de l'administration domestique. Et ils vivent continuellement dans l'idée que leur devoir est de conserver intacte leur réserve de monnaie, ou même de l'accroître indéfiniment. La raison de cette attitude, c'est qu'ils s'appliquent uniquement à vivre et non à bien vivre. Comme l'appétit de vivre est illimité, il désire des moyens de la satisfaire également illimités. C'est aussi très intéressant de voir ça. De fait même, si vous cherchez à bien vivre, c'est limité. C'est le zen, c'est l'épanouissement. Si vous cherchez uniquement à vivre, c'est illimité. C'est toute la question de la culture. Vous voyez, au fond, une forte culture empêche l'accumulation indéfinie de la fortune. Quand il n'y a plus de culture, alors il n'y a plus le bien-vivre. Alors à ce moment-là, c'est une porte ouverte à l'accumulation de la richesse. Et même ceux qui s'efforcent de bien-vivre recherchent les moyens de se livrer aux jouissances corporelles, de sorte que, comme ces moyens paraissent aussi consister dans la possession de la richesse, tout leur temps se passe à amasser de l'argent. Et c'est ainsi qu'on en est arrivé à la seconde forme de la crématistique. Vous voyez les deux formes, vivre ou la jouissance. Toute jouissance, en effet, résidant dans un excès, ils se mettent en quête de l'art capable de produire cet excès dans la jouissance. Et s'ils sont incapables de se la procurer par le jeu ordinaire de la crématistique, ils tentent d'y parvenir par d'autres moyens, employant toutes leurs facultés d'une façon que réprouve la nature. Le rôle du courage n'est pas en effet de gagner de l'argent, mais de donner de la résolution. Pas davantage, ce n'est le rôle de l'art stratégique, de l'art de la stratégie ou de l'art médical. Mais ces arts doivent nous apporter victoire ou santé. Cependant, on fait de toutes ces activités une affaire d'argent, dans l'idée que gagner de l'argent est leur fin, et que tout doit conspirer pour atteindre ce but. Vous êtes médecin, non plus pour soigner, mais pour gagner de l'argent. Vous êtes soldat, non pas pour être victorieux au combat et défendre l'État, mais pour gagner de l'argent. On connaît bien ce genre de raisonnement. Peu importe ce qu'on fait, le tout c'est de gagner de l'argent. Donc à ce moment-là, la fin naturelle est remplacée par quelque chose qui n'est plus naturel, et donc qui est ouverte à l'infini. Et c'est ça qui détraque tout. Nous avons ainsi parlé de la forme non nécessaire de la crématistique, indiqué sa nature et la raison pour laquelle nous en avons besoin. Nous avons encore traité de sa forme nécessaire et montré qu'elle est différente de la première et que l'économie domestique est conforme à la nature. Elle n'est pas, comme l'autre, illimitée, mais elle a ses bornes. Ça, c'est un passage très intéressant. Il faut essayer de bien saisir ce qu'Aristote montre comme étant source de toute destruction de la fin, de la finalité. Et donc, ce qui, de fait, va détraquer le point de vue premier, celui qui commande et celui qui obéit, qui ont même intérêt. Vous comprenez que si on cherche uniquement l'argent, gagner l'argent, celui qui commande cherchera à exploiter celui qui exécute. Celui qui obéit, celui qui exécute, Vous comprenez bien? Si on cherche uniquement à gagner de l'argent, donc on essaiera d'exploiter, et en exploitant, on n'a plus le même intérêt. Ce n'est plus l'intérêt qui commande. Et donc, la coopération fondamentale de la communauté est détruite. Je crois que c'est très très fort comme analyse. Comme analyse au point de vue philosophique. D'essayer de voir où il y a un moment où tout se détraque. Alors, comment ça se fait? Eh bien, c'est pour lui, il faut voir si c'est vrai ou pas vrai, pour lui, c'est le moment où on ne cherche plus les besoins naturels pour bien vivre, mais pour vivre, on recherche l'accumulation de la fortune. Ce qui ne peut pas se faire quand c'est dans l'ordre purement naturel. Mais grâce à la monnaie, ça peut se faire. Alors, il y a encore au chapitre 10 quelque chose de très intéressant, mais qui est facile à comprendre. C'est l'art naturel d'acquérir et le prix à intérêt. Vous savez bien la fameuse phrase d'Aristote. On voit aussi quelle réponse peut recevoir le problème posé au début, à savoir si l'art d'acquérir des richesses rentre dans la sphère d'activité du chef de famille ou de l'homme politique, ou s'il n'en est rien. Mais si au contraire, on doit admettre que les richesses sont déjà à notre disposition. De même, en effet, que l'art politique ne crée pas des hommes, mais les reçoit des mains de la nature pour les utiliser ensuite. Ainsi également, c'est à la nature qu'il appartient de fournir aux hommes de la nourriture en mettant à leur disposition terre, mer ou autre milieu. La tâche du chef de famille, se bornant ainsi, en partant des biens préalablement fournis par la nature, à les dispenser de façon équitable. Ce n'est pas en effet l'affaire de l'art du tisserand de fabriquer de la laine. Son affaire est seulement de s'en servir et de connaître quelle sorte de laine est de bonne qualité est utilisable ou de mauvaise qualité est inutilisable. S'il n'en était pas ainsi, on pourrait se demander pourquoi l'art d'acquérir des richesses est une partie de l'économie domestique, alors que l'art médical n'en est pas une partie. Alors ça, c'est aussi très joli comme petite remarque. L'art médical ne fait pas partie de la famille. Dans toute famille, il faut un médecin. Le médecin de famille. Très très bien. Eh bien, vous voyez la petite question d'Aristote. Hein? S'il n'en est pas ainsi, on pourrait se demander pourquoi l'art d'acquérir des richesses est une partie de l'économie domestique, alors que l'art médical n'en est pas une partie. Et cependant, les membres de la famille doivent posséder la santé, aussi bien que la vie, ou tout autre bien de première nécessité. La réponse à faire, c'est que si d'un certain point de vue, il appartient bien au chef de famille ou au gouvernement de veiller à la santé de leurs subordonnés. D'un autre point de vue, ce n'est pas leur affaire, mais celle du médecin. Il en est de même aussi en ce qui regarde les richesses. D'un certain point de vue, c'est la fonction du chef de famille d'assurer la subsistance des siens. Et d'un autre point de vue, ce n'est pas son affaire, mais l'affaire de l'art qui est à son service. C'est très curieux, ça. C'est très intéressant comme chose, comme discernement qu'il fait. Vous voyez, le chef de famille doit utiliser le médecin pour la santé de ses membres, mais il ne lui a pas demandé d'être médecin. Vous voyez, c'est la question de l'usage. C'est la question de la prudence et de l'usage. Il doit utiliser, il doit savoir qui est compétent pour utiliser. Mais ce n'est pas lui. Il doit donc avoir sous la main un bon médecin et l'utiliser. C'est l'usage. Mais il n'a pas, lui, à être médecin. Tout ça, vous voyez, il y a sous-jacent ce que nous avions vu à propos de Platon. C'est qu'on ne peut pas tout faire. Si on veut tout faire, on le fait mal. Et donc, il faut comprendre que le chef de famille, c'est la prudence, exercer son autorité. Ce n'est pas l'art, en premier lieu. Mais cependant, il faut qu'il ait un certain art d'acquérir la nourriture, d'acquérir la richesse. Cet art est commun, tandis que l'art médical n'est pas commun. Acquérir la richesse, c'est commun, ça fait partie de sa prudence. Il doit avoir dans sa prudence la possibilité d'avoir suffisamment de biens pour que la famille puisse vivre et bien vivre. Mais par-dessus tout, comme nous l'avons dit plus haut, ces biens doivent être déjà mis à notre disposition par la nature, car le travail de la nature est de fournir de la nourriture à l'être qu'elle a engendré. Puisque toute créature a pour aliment ce qui reste de la substance d'où elle provient. Ça, c'est une des grandes visions d'Aristote à propos de la procréation, à propos de la génération. Celui qui est source de vie, source d'un nouvel être, doit être en même temps source de son première alimentation, pour lui permettre de faire les premiers pas. Ça fait partie donc de la nature comme telle, et de ce milieu naturel, vous voyez. Mais par-dessus tout, comme nous l'avons déjà dit plus haut, ces biens doivent être déjà mis à la disposition par la nature. Car le travail de la nature est de fournir de la nourriture à l'être qu'elle a engendré. Puisque toute créature a pour aliment ce qui reste de la substance d'où elle provient. Voilà pourquoi l'art d'acquérir des biens en provenance des fruits de la terre et des animaux est pour tous les hommes un art naturel. Et c'est rattaché à la famille. Et c'est en ce sens-là que la famille a un droit de propriété par rapport à ce que représente la terre qui pourra lui donner le blé et le vin, par rapport à la forêt qui pourra lui donner les animaux pour la chasse. C'est un droit naturel. C'est le droit naturel à vivre. Et c'est le droit naturel qui est rattaché à la nature, puisque la nature, en mettant au monde des êtres nouveaux, doit leur donner l'aliment. Très curieux, ça. La nature nourricière, vous voyez. La nature qui doit être ce milieu premier. Évidemment, on est très très loin de tout ça, hein, ça c'est évident. C'est une vision de la phusis. Et c'est peut-être là, c'est pour ça que je vous lis ces passages, parce que c'est peut-être là où on le voit le mieux, combien pour Aristote la famille est enracinée dans la nature. Et combien l'art d'acquérir, c'est nécessaire pour avoir la nourriture. C'est un droit naturel, la nourriture. Mais comme nous l'avons dit, l'art d'acquérir la richesse est de deux espèces, on revient. L'une est sa forme mercantile. L'autre est une dépendance de l'économie domestique. Cette dernière forme est nécessaire et louable, tandis que l'autre repose sur l'échange et donne prise à de justes critiques, car elle n'a rien de naturel, elle est le résultat d'échanges réciproques. Dans ces conditions, ce qu'on déteste avec le plus de raison, c'est la pratique du prêt à intérêt. Que l'on déteste de la manière la plus forte, on voit très bien, c'est la pratique, ce qu'on déteste avec le plus de raison, c'est la pratique du prêt à intérêt. Parce que le gain qu'on en retire provient de la monnaie elle-même et ne répond plus à la fin qui a présidé à sa création. Il y a un détournement de ce moyen. Ce moyen n'est plus ce moyen comme il avait été établi, il est pris d'une autre manière. Et vous lui demandez, vous le chargez de lui pour faire pression. Car la monnaie a été inventée en vue de l'échange, tandis que le prêt à intérêt multiplie la quantité de la monnaie elle-même. C'est même là l'origine du terme intérêt, prêt à intérêt. Car les êtres engendrés ressemblent à leurs parents. Et l'intérêt est une monnaie née d'une monnaie. L'intérêt, le prêt à intérêt, c'est la monnaie née de la monnaie. Donc la monnaie qui fait des petits. peut pas faire autre chose que des petits qui sont la monnaie. Par conséquent, cette dernière façon de gagner de l'argent est de toute la plus contraire à la nature. Alors, c'est intéressant, il faut vous dire que pendant tout le Moyen-Âge, cette phrase d'Aristote est restée, ça tombe à la reprise, et l'Église a maintenu la condamnation du prêt intérêt comme étant quelque chose contre nature. Alors, évidemment, comprenons bien, soyons intelligents, tout autre chose, la question de la banque. Alors à ce moment-là, vous condamnez la banque en disant la banque contre nature. Alors toute la différence est de savoir quelle est la finalité de la banque. Si la finalité de la banque, c'est de permettre à certains de pouvoir réaliser quelque chose qu'ils ne pourraient pas réaliser sans ça, alors il y a une finalité qui est naturelle. Mais si vous spéculez en disant que vous allez maintenir pendant un certain temps, sans aucun, au moment où il aura le plus intérêt pour faire un gros intérêt, ce n'est plus naturel. Vous voyez comme c'est délicat. Et comme me disait, il y avait un banquier de Nantes, Rimond, heureusement qu'il ne faisait pas ça, mais j'ai un banquier de Nantes, alors il me racontait, c'est une petite banque de Nantes, il me racontait les difficultés qu'il avait actuellement. Alors je lui demandais, parce qu'il est nationalisé, il a dit, est-ce que vous avez des inconvénients? Voilà. De temps en temps, on reçoit un coup de téléphone, il faut soutenir telle affaire. Derrière, on sait, les petits copains. Donc, il faut soutenir telle affaire. Pendant ce temps-là, puisqu'on n'a pas d'argent à la fin, on ne soutient pas d'autres affaires qui, elles, sont beaucoup plus intéressantes. C'est comme ça, ça se signale. Donc, dans l'ordre de la direction, on n'est plus autonome. On ne peut plus regarder qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'on a pour avancer, prêter l'argent, permettre telle réalisation. Non, on est téléguidé. Oui. C'est pour saisir ce que là, Aristote a, je crois,